France Musique. Les grands entretiens, Lionel Esparza, France Musique.
Je suis William Christie, je suis né le 19 décembre 1944 dans la ville de Buffalo et je suis chef d'orchestre.
William Christie, lors du précédent grand entretien, vous a laissé donc étudiant d'abord Harvard, ensuite à Yale. Vous avez beaucoup appris auprès de Ralph Kirkpatrick. On arrive en 1970, vous terminez, je crois, vous arrivez avec votre diplôme. Il y a la guerre du Vietnam, qui est une vraie guerre pour les États-Unis. Et c'est en quelque sorte grâce à cela qu'on vous a eu en France aujourd'hui. Comment ça s'est passé le passage en Europe?
Mais déjà quand j'étais à Yale, il y avait ce spectre épouvantable d'une guerre qui était manifestement, n'est-ce pas, une guerre sale. Et on était, et ça c'est la grande fierté, n'est-ce pas, fait que je garde toujours, d'une jeune génération, une jeune population américaine, n'est-ce pas, fait, qui voulait absolument pas le faire. Et il y avait un moment assez dur dans ma jeune vie. J'étais à Yale et pour rester et ne pas être tout simplement pris par l'armée américaine, j'ai fait un été, une partie de l'été, à Fort Benning dans le Georgie, un immense marais malarial horrible, n'est-ce pas, de basic training, c'est-à-dire comment devenir un GI. Voilà, c'était révélateur. J'ai bien réussi parce que, bon, j'étais mince, j'étais assez en forme, enfin, donc je pouvais faire tout ce qu'on m'a demandé, n'est-ce pas? Mais c'était, pour moi, un traumatisme épouvantable. Et j'ai vu des choses que j'aurais même pas pu imaginer. Je rentre à Yale, j'ai vécu 2 mois comme membre de ces réserves, et puis je ne pouvais plus. Alors je me souviens, j'ai pris mon uniforme que je portais 2-3 jours par semaine. J'ai mis tout ça dans un sac en plastique et je l'ai jeté effectivement, et puis voilà. Et puis il y avait cet horrible incident où à Kent State, c'était au printemps de 70, où la garde nationale a tiré sur les élèves en tuant une dizaine, quinzaine d'universitaires. Et moi, j'ai joué un service in memoriam à la chapelle de Dartmouth. Et la décision était tout simplement très simple. Je voulais quitter les États-Unis. Mais j'ai parlé longuement avec mes parents de tout cela, et je me suis dit, mais je vais en Europe. Et quand j'ai annoncé que j'allais probablement aller en France, parce que j'adorais la musique française, je parlais un petit peu de français, les parents adoraient la France aussi, donc c'était très bien. Un éloignement, mais aussi la possibilité de me baigner et de m'exprimer dans une société que j'admirais beaucoup, beaucoup plus que ce que j'avais vécu à cette époque-là aux États-Unis.
Charmante paix du ciel à propos des ennuis que ne devons-nous pas avoir par bonté. De ces monstres cruels contre nous.
Et j'arrive en France, et en effet, c'était assez extraordinaire parce que j'arrive au conservatoire de musique à Paris, avec, et là, il y avait Madame de Chambure et Josiane Branrissi, et j'ai rencontré les Français assez fascinants, mais on était peut-être une dizaine d'Américains et Canadiens qui étaient là pour la même raison que moi. Oui. Et c'est inutile de vous rappeler aussi fait que c'était 2 ans après mai 68. Donc c'est la deuxième année fait de la présidence de Pompidou. La France était très différente qu'aujourd'hui. Elle était rajeunie, presque exagérément, enfin n'est-ce pas, ouverte justement. Comme si l'Hexagone, enfin, qui avait vécu comme le Middle Kingdom, enfin, en Chine, enfin, pendant des siècles, n'est-ce pas, subitement, a ouvert toutes les vannes, enfin, toutes les portes. Et l'accueil était extraordinaire, franchement. J'ai rencontré des gens très savants, extrêmement intéressants. Enfin, l'équipe autour de la BN, département de la musique, François Lesure, enfin, les différents conservateurs, les musiciens. Un peu moins, curieusement. Mais j'ai adoré l'atmosphère que j'ai trouvée à Paris, dans ces milieux-là. Vous allez me demander si c'est différent aujourd'hui. Oui, très. C'est curieux, comme si la porte s'est refermée de nouveau. C'est vrai que je vivais ces débuts avec les lunettes roses, en quelque sorte. La France était tout simplement la terre promise. Mais il y avait une fraîcheur, une jeunesse dans ces milieux-là que j'ai énormément aimé, énormément. Ce qui était un tout petit peu difficile, évidemment, c'était le côté, enfin, disons, la pratique, la musique. Hein. Il y avait des gens merveilleux comme interprètes, j'ai rencontré. En grande partie grâce à aux gens comme Noël Lee, le pianiste américain, ou John Everts du Conseil international de la musique. Mais c'était évident, fait que si moi je voulais boire à la source, n'est-ce pas, de cette musique française que j'aimais, c'était pas vraiment un engouement, enfin n'est-ce pas, partagé par beaucoup. Hein. Et la musique, Madame de Chambure avait ses fidèles autour d'elle, mais c'était vraiment une sorte de musée, hein, disant, je ne parle pas d'instrument, mais je parle de deux interprètes, mais des gens vraiment en vitrine, en quelque sorte, oui, oui.
On parlait de Geneviève de Chambure un peu plus parce que ça va être une protectrice pour vous et plus que cela, en fait, une sorte de, en fait, compagnon de route, elle soutient, une mécène, tout ce qu'on veut.
Est-ce que ça peut être tout un chapitre? Parce que là, sincèrement.
Elle avait une collection d'instruments de musique, c'était ça la base, en fait, de son travail aussi. Elle en avait réuni, je ne sais plus combien, des dizaines, des centaines qui sont aujourd'hui d'ailleurs au Musée de la musique à Paris.
C'était la dernière grande mécène de la musique en France. Il n'y a personne qui a su, disons, succéder. Il a fallu avoir une belle fortune derrière, mais non seulement une belle fortune, mais une belle intelligence et une culture absolument extraordinaire. Elle aimait la vie, elle avait une sorte, un sens de jouissance, fait que, comme j'ai rarement vécu avec elle. Elle était musicologue. Elle était collectionneur, elle était mondaine. Elle avait réussi à façonner tout ça, en fait, dans une sorte de vie qu'elle partageait avec les autres. Alors vous imaginez un jeune Américain ou un jeune Espagnol, car en effet, un jour, elle me dit « Ah, j'ai mis un jeune Espagnol, il joue apparemment très très bien la basse de viol, il est dans la chambre de maman, allez vous présenter. » Et c'était Jordi Savall. En 71, quoi, ou 71. On était absolument incapable de résister à ce charme et cette séduction. Oui. Les concerts qu'elle organisait une ou deux fois par an, les concerts de la Société de la musique d'autrefois, étaient, bon, c'est dommage qu'on n'a pas pu filmer. C'était vraiment à la fois une sorte de Louis Funès musicale mélangée avec Monty Python, il y avait la baronne de Lambertery, une vieille aristo, qui jouait de la luth. Mal. Et puis, il y avait d'autres, mais je ne veux pas citer même les noms. C'était extravagant. Alors, un jour, il me dit, j'ai suivi vos conseils, mon petit. Elle m'appelait Billy. Alors, nous avons ces Kuchkin, qui arrivent de Belgique. Et puis, nous avons René Jacobs, les gens que j'avais proposés, et Judith Nelson, et voilà. Et nous allons faire un grand concert. Alors là, on arrive chez elle, parce que le concert, les répétitions ne pouvaient pas avoir lieu qu'après un grand déjeuner chez elle. Elle avait toute une équipe, n'est-ce pas, au sous-sol de la maison à Neuilly, qui cuisinait. Elle recevait tous les jours. Alors, ça venait qu'il y avait 2 mètres d'hôtel, de la table où on pouvait mettre une vingtaine de personnes, et la séduction commençait avec la bouffe. Donc, ces répétitions, à cette époque-là, qui mélangeaient la jeunesse et, je dirais, un milieu qui était très différent, que le milieu aristocratique de Madame de Chambure, ces deux mondes se sont rencontrés au même moment. Chez elle. Pour vous dire qu'elle était à la charnière de quelque chose. C'est extravagant. S'il avait pu vivre encore 3, 4, 5 ans, elle aurait vécu peut-être un plaisir, une sorte de contentement. Car en effet, elle savait qu'elle était là pour catalyser, pour stimuler. Parmi les plus grands regrets que j'ai à 75 ans maintenant, ou bientôt 75 ans, c'est que cette dame, Madame de Chambure, n'a pas pu vivre encore quelques années. Car elle est décédée le 31 août 75. C'était très tôt. Moi, je l'avais connue donc pour 5 ans. Pendant 5 ans. C'était pas assez. Et pas assez pour moi, et certainement pas assez pour nous aussi, et pour elle. Car, malgré son âme, et bon, elle avait 72, 73 ans, je crois, victime, de ses excès. Elle était gourmande, elle aimait la bonne chair, elle était vraiment une épicurienne. Mais elle était aussi à l'aube d'une nouvelle vie, même à cette époque, grâce à sa curiosité intellectuelle et son intelligence. Elle était prête effectivement à balancer tout ce qu'avait traîné avec elle comme habitude musicale, comme instinct de conversation, puisque elle s'est rendue compte qu'il y avait une autre façon et une autre génération qui représentait effectivement peut-être l'avenir de la musique ancienne. Mais ces 5 ans étaient à la fois frustrants, mais absolument exhilarants aussi. C'est extraordinaire. Maintenant, avec un peu de recul, je me rends compte ô combien la France avait honoré effectivement la musique ancienne, mais bien, bien avant nous. Quand on commence à regarder le travail des grands musicologues autour, par exemple, de Saint-Saëns, pour l'édition Rameau, on s'aperçoit qu'il y avait une culture musicale, peut-être exprimée, peut-être moins comme interprète, mais comme, sur le plan intellectuel, extraordinaire. Le travail de Denise Launay sur la musique latine en France, oh là 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 là. Les moments que j'ai passés avec elle, chez elle à Paris, les moments avec... Non, c'était vraiment... Un monde maintenant disparu. Mmh.
France Musique, les grands entretiens de William Christie.
1977, la création du concerto vocal de René Jacobs. Vous êtes là au tout début, vous arrivez en cours de route de cet ensemble, je ne sais même plus.
J'avais toujours cette immense nécessité, et c'est toujours aussi forte, de m'associer avec le chanteur. Bon, est-ce que c'est un lègre, est-ce que c'est maman qui m'a... Oui, peut-être. Ces années où j'étais très jeune en train d'écouter, effectivement, une musique vocale. En tout cas, j'éprouvais au collège, à l'université, ce besoin de vivre la musique associative d'abord. J'ai décidé tout de suite que je serais un chef, mais je serais quelqu'un aussi qui jouait avec les autres. Les autres étaient surtout les chanteurs. J'ai adoré ça. Qui explique pourquoi j'étais lié avec Cathy Berberian ou quelqu'un comme Jenny Tourelle. Ces chanteuses et les chanteurs qui me fascinaient, qui me stimulaient, n'est-ce pas? Et j'ai toujours ce goût. Et dans les années 70, grâce à tout simplement des fréquentations plutôt à le nord, à Amsterdam, j'ai rencontré Marius van Altena, Max van Egmond. Et puis, subitement, un jour, j'entends une voix superbe. C'était la voix de René Jacobs. Et nous sommes rencontrés. J'avais cette idée de présenter Emma Kirkby, Judith Nelson, les Anglais qui avaient aussi le début de cette grande tradition de musique ancienne. Et tout ça s'est concrétisé grâce à Monet par une sorte de... Oui, un ensemble qui portait le nom de concerto vocal où, le génie, le meneur était René. Un garçon qui était avait une forte intelligence, une grande intelligence musicale, qui était un véritable pionnier en ce qui concerne la redécouverte du répertoire vocal du XVIIe et XVIIe siècle. Et on a vécu des moments très très intéressants ensemble.
William Christie, sur cette année 1977, vous vous trouvez donc à prendre la direction d'une classe au Conservatoire de Paris. Son titre, musique de chambre, instrumentale et vocale. Vous nous racontez comment ça s'est fait, puis peut-être les résistances qu'il y avait en interne, parce qu'elles ont été fortes.
C'est très simple. C'est très simple. Il y avait Galois Membrun, qui est directeur, un homme bien, mais il y avait surtout un duo de femmes extraordinairement visionnaire, elle voyait les lacunes, ou les carences, si vous voulez. On ne pouvait pas, pour un instant, imaginer qu'il y avait une classe de musique ancienne au conservatoire à cette époque-là. Alors ces deux dames, avec la bénédiction de M. Galois Membrun, disaient, écoutez, on ne peut pas vraiment, n'est-ce pas, vous nommer prof, On va tout simplement, en fait, vous donner la possibilité d'avoir une classe avec qui il y aura pas de concours d'entrée, il y aura pas de concours de sortie. Alors j'étais très naïf, mais c'était très très alléchant comme proposition, et ça marchait. Ça a marché tellement bien, fait que au bout de 2 ans, c'est incroyable. J'avais des guitaristes qui sont venus parce qu'ils voulaient essayer le théorbe ou l'archiluth. Enfin, il y avait quelques clavecinistes, il y avait des chanteurs et les violonistes. Mais c'était une sorte de terrain miné. Il y avait des consignes, par exemple, les interdictions. Il faut le dire des choses comme elles sont. Enfin, il y avait une forte opposition, par exemple, de la part des classes de violon. Je me souviens que Bertrand Walter, il s'appelait, je crois, l'un des grands violonistes de l'époque, élève, est venu dans ma classe en disant « Est-ce que je peux jouer, par exemple, la deuxième partita, mais ma façon, et puis façon conservatoire ?» J'ai dit « Oui, c'est amusant, ça !» Donc, j'avais eu la réputation d'être une sorte de cheveux dans la soupe. Quelque chose de ce genre. Ah, mais le problème était créé par ces gens-là. Moi, je me suis amusé. D'abord, j'ai rencontré un talent extraordinaire. Oui. Oh là 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 là. Et il y avait une sorte de, je ne sais pas, d'atmosphère bon enfant. Enfin, voilà. Et j'ai opté, je me souviens au début, pour que ça se passe à la fin de la journée, comme une sorte de libération pour les... Mais quand je pense à ce que j'avais comme matière première. Waouh.
Un extrait d'Il Sant'Alessio de Stefano Landi, c'était William Christie à la tête des arts florissants. Un grand merci à Flora Sternadel, Marie Groux, Yvan Charby et Valérie Lavalard. Je vous retrouve demain pour le 4e volet de nos grands entretiens avec William Christie. Ce sera autour de la création des arts florissants et d'Atis. Et puis vous pouvez réécouter cette émission dès à présent et dans son intégralité en passant par francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.